France Musique. Kind of Blue, été 59, naissance d'une légende, Thierry Paul Benizo, France Musique.
Bonsoir. En avril 1955, quelques semaines à peine après la mort à 35 ans de Charlie Parker, c'est au Birdland, qui est devenu le jazz club number one de New York, que Miles Davis présente un quintet que l'histoire retiendra comme le classique quintet. Il y en a eu un deuxième dans les années 60, mais nous n'en parlerons pas cette fois-ci. Aux côtés de Miles, des musiciens encore peu connus, mais qui vont rapidement se faire un nom, Sonny Rollins au saxophone ténor, bientôt remplacé par John Coltrane, et une section rythmique de tout premier ordre, la section, Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et Philly Joe Jones à la batterie. Bon, ça ne va pas sans quelques difficultés liées aux personnalités et aux problèmes personnels, comme on dit, de chacun, et même occasionnellement des changements d'effectifs, mais la musique reste de très haut niveau, et pour Miles, l'entrée chez Columbia est une perspective qui se rapproche rapidement. Chapitre 2. The Making of a Star. Sous la houlette de son dynamique président Goddard Lieberson, dès le milieu des années 50, Columbia domine le marché du disque. Le label a profité à la fois de la technologie du micro-sillon, le LP, le vinyle, qu'il a introduit en 1948, et d'une écurie d'artistes prestigieux, Duke Ellington, Mahalia Jackson, Dave Brubeck, Harold Gardner, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Rosemary Clooney, et il y en a encore d'autres. Columbia vise une nouvelle génération de musiciens pour conforter cette position de leader dans le domaine du jazz. C'est véritablement le label où il faut être, et Miles Davis ne veut pas manquer cette opportunité. Eh bien, c'est George Avakian qui va lui en fournir l'occasion. Ce diplômé de Yale, d'origine arménienne, il est arrivé de Russie avec sa famille en 1923. George Avakian est plus qu'un jazz fan, c'est un historien de la musique qui a acquis sa réputation en rééditant notamment pour Columbia Records les enregistrements vintage des Hot 5 et Hot 7 de Louis Armstrong. Et puis depuis, il occupe chez Columbia le poste de directeur du Popular Album Department, c'est-à-dire l'équivalent des variétés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de département de jazz chez Columbia. Avakian, il connaît Miles depuis longtemps. Il l'a rencontré la première fois à Los Angeles, juste après-guerre, au Finale Club d'ailleurs, où Miles jouait avec Parker en 1946. Et puis depuis des années, ils se rencontrent assez souvent, et Miles, à chaque fois qu'il se voit, lui chante la même chanson. « Hey George, sign me up !»« George, engage-moi !» Avakian a souvent caressé l'idée pour aussitôt l'oublier, en partie à cause de l'addiction de Miles à l'héroïne, et puis ce contrat exclusif avec Prestige, et enfin le fait que Miles n'avait toujours pas de groupe régulier. Mais les choses ont bien changé depuis. En 1955, Miles est clean, et il avait formé un combo dont on commence à parler. Et à parler sérieusement. Il y a toujours Columbia en ligne de mire. Et malin, il a même conçu un plan astucieux, une solution win-win, comme on dit, pour sortir de son contrat avec Prestige. C'est George Avakian qui raconte l'anecdote. Miles, Eh bien, tu dis à Bob Weinstock que tu souhaites m'enregistrer, mais que tu ne sortiras rien avant la fin de mon contrat, qui doit se terminer dans 2 ans. Entre-temps, ils pourront produire autant de disques qu'ils le souhaitent, et lorsque Columbia pourra sortir mon premier album, bien entendu, tu en feras la promotion, n'est-ce pas? Et cela profitera à Prestige. Formidable solution. De son côté, George Aveken, fort de son succès commercial avec l'album Dave Brubeck Goes to College, a l'aval de sa direction pour miser sur un ex-junkie, mais qui a l'envergure d'une star montante. On va faire un petit pas de côté. Nous sommes à Newport le dimanche 17 juillet 1955. George Wing, le fondateur et patron du Newport Jazz Festival, dont c'est la 2e édition, a booké un All-Star conduit par Miles qui comprend Zoot Sims au ténor, Jerry Mulligan au saxophone baryton, Thelonious Monk au piano, Percy Heath à la basse et Connie Kay à la batterie. Et c'est Duke Ellington qui présente la formation. Bien entendu, George Aveken et son frère Aram assistent au concert.
Thank you very much, ladies and gentlemen, for Count Basie, Jimmy Rushing, and all of the other Kansas City kids. I have another listing here of a group that's coming up. It looks like these gentlemen live in the realm that Buck Rogers is trying to reach. We start with a couple of gentlemen you've heard before. Percy Heath, bass, and Connie Kay, drums of the Modern Jazz Quartet. And then we go on down to Miles Davis, trumpet. Miles Davis. Zoot Sims, tenor. And my very dear friend, the cool one, Jerry Mulligan. And the High Priest of Bop, the inimitable Thelonious Monk.
Thank you.
George Avakian est subjugué. Il est tout de même conseillé par son frère qui lui aurait dit « Si tu ne le signes pas maintenant, d'autres vont s'en charger ». Donc Avakian a décidé de signer Miles chez Columbia. Il a toutefois posé ses conditions. Miles Davis doit constituer un groupe régulier avec lequel il devra tourner pour assurer la promotion des disques à venir chez Columbia. Avakian lui a même trouvé un agent, Jack Whitmer de Show Artists, une des meilleures agences artistiques du moment qui représente des musiciens de jazz. Et Jack Whitmer, qui croit réellement en Miles Davis, accepte le challenge. Il va booker Miles et son groupe pour une série de prestations en club et en concert qui vont mener le quintet pendant les 18 mois suivants dans les grandes villes américaines. Pour l'anecdote, Jack Whitmer demeurera l'agent de Miles durant toute sa carrière. C'est bien parti pour le quintet, mais prétextant un engagement à Chicago, alors qu'en fait il est en désintoxication, Sonny Rollins a quitté le groupe, ce qui risque de mettre en péril le deal signé avec Columbia. Le temps presse, Prestige et Columbia sont prêts à enregistrer. Miles lance une campagne de recrutement après quelques essais avec d'autres saxophonistes, dont John Gilmore et même Cannonball Adderley qui faisait l'affaire mais est retenu par son job de teacher à Fort Lauderdale. Eh bien, c'est Philly Joe Jones qui va chercher son copain John Coltrane à Philadelphie. L'audition ne se passe pas très bien. Pour Miles, Coltrane est encore trop marqué par le bebop. Et puis, sur le plan personnel, le courant passe difficilement. Miles, la raison pour laquelle nous ne nous entendions pas au début, c'est que Trane n'arrêtait pas de me poser ces putains de questions à propos de ce qu'il devait ou ne devait pas jouer. C'est un professionnel, non? Et j'ai pour habitude, avec les gars qui jouent avec moi, de les laisser trouver eux-mêmes leur place. Donc mon silence et mon regard ont dû le décourager. Fin de citation. Cependant, Miles engage Coltrane qui a 29 ans et est loin d'être inexpérimenté. Mais il est aussi le prototype de l'éternel insatisfait, s'autodépression à loisir. Coltrane. Quand j'ai rejoint Miles en 1955, j'avais beaucoup à apprendre. Je crois que je manquais de musicalité. Je ne suis pas très fier des premiers disques que j'ai fait avec Miles. Pourquoi m'a-t-il choisi? Je ne sais pas. Peut-être a-t-il senti quelque chose dans mon jeu qu'il espérait voir se développer. Thank you. Table Mates, un thème de Benny Golson avec Miles Davis bien sûr à la trompette, John Coltrane au saxophone ténor, Red Garland était au piano, Paul Chambers à la basse et Philly Joe Jones à la batterie. Ça a été enregistré le 16 novembre 1955 à Hackensack dans le New Jersey. Les choses vont bien sûr s'arranger entre Miles et Coltrane et le 27 septembre 1955, un quintet flambant neuf avec John Coltrane fait ses débuts au club Las Vegas de Baltimore, puis ce sera Detroit et New York au Birdland. Miles n'a jamais joué avec autant de puissance et d'autorité, écrira le critique Nathan Toff du magazine Downbeat. Mais le quintet manque encore un peu de cohésion. Pas pour longtemps. Le groupe va fusionner très rapidement. Miles s'est lui-même surpris. Plus vite que je ne l'imaginais, dira-t-il. La musique que nous jouions était juste incroyable. J'en avais des frissons chaque soir. Le quintet de Miles Davis va véritablement définir le jazz moderne de cette fin de décennie. Il est propulsé par une section rythmique qui tourne comme un moteur de F1. Le son de Miles est encore affiné avec davantage d'espace dans ses solos. Il allonge ses phrases. L'usage fréquent de la sourdine Harmon apporte une couleur inédite et mystérieuse à la tonalité de l'instrument. Quant à John Coltrane, lui aussi a un son unique et reconnaissable. Il s'affirme en puissance. Miles lui laisse prendre une direction plus individuel, l'improvisation de Train s'allonge et le phrasé se mue en nappe sonore, terme que j'emprunte au critique Ira Gittler. Je jouais de ma trompette et je dirigeais le meilleur groupe du business, un groupe créatif, imaginatif, suprêmement soudé et esthétique, écrira Miles Davis dans son autobiographie. Et Miles a véritablement de quoi se réjouir. Porté par un producteur imaginatif, un impresario entreprenant, un label qui a l'expérience du studio et qui sait promouvoir ses artistes, spécialement dans le jazz. Et puis, les disques prestige seront disponibles pour un nombre croissant de fans. Son nom va devenir familier au plus grand nombre. Et d'une manière ou d'une autre, la musique même de Miles va influencer le jazz à venir. Composition de Miles Davis, avec Miles Davis bien sûr, John Coltrane au saxophone ténor, Red Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones, enregistré à Hackensack, New Jersey, le 26 octobre 1956.
Kind of Blue, été 59, Thierry-Paul Benizo, France Musique.
Après accord, les deux labels organisent les séances de studio. Les enregistrements réalisés durant les 18 mois suivants produiront 6 albums chez Prestige. Miles, Cooking, Relaxing, Miles Davis and the Modern Jazz Giants, Working et Steaming. Mais seulement un album chez Columbia, Round About Midnight. Quatre des six albums produits par Prestige, Cooking, Relaxing, Working et Steaming, seront gravés en deux séances marathon au cours desquelles le quintet jouait simplement une setlist dûment répétée mais sans retakes, ce qui est assez prodigieux déjà. Et les phases gravées par Prestige reçoivent dès 1956 un accueil plus que favorable de la presse spécialisée. D'ailleurs, Downbeat attribuait 5 étoiles à l'album Cooking. Bob Weinstock et George Avakian diffèrent quelque peu dans leur méthode de production. Le premier album de Miles sur Columbia est le résultat de 3 longues séances avec de nombreuses prises, d'un répertoire soigneusement sélectionné, et le master de chaque titre est un assemblage des meilleures prises. La souplesse de Miles en studio est la combinaison d'une grande assurance dans une réalisation méticuleuse avec la spontanéité de la première prise, cette fameuse first take philosophy qui lui servira durant toute sa carrière chez Columbia. Et puis à la fin de la décennie, ces deux approches vont converger pour aboutir au projet de Kind of Blue. Air Jean, une composition de Sonny Rollins. Miles Davis était à la trompette, John Coltrane au saxophone ténor, Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et Philly Joe Jones à la batterie, enregistré encore et toujours chez Rudy Van Gelder à Hackensack dans New Jersey le 16 novembre 1955. Avec la sortie de Roundabout Midnight le 18 mars 1957, Miles devient officiellement un artiste Columbia. Avec la promotion imaginée et mise en place par l'équipe de publicitaires maison sous l'impulsion de George Avakian et de Deborah Eichlund, qui est en charge de la communication, les ventes de Roundabout Midnight distancent rapidement les 5 albums combinés produits par Prestige. C'est un sans faute pour Columbia.
Thank you.
Round About Midnight, une magnifique composition de Thelonious Monk, magnifiquement aussi interprétée par Miles Davis, John Coltrane, Brett Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones, le quintet. Ça a été enregistré en 1955, le 26 octobre, à New York. Les succès combinés des prestations live et des disques sortis chez Prestige assurent la réputation du quintet et celle de Miles. Cela va même au-delà de la musique. En quelques mois, Miles est devenu un symbole, une icône du cool. Il est désormais un faiseur de mode. Les vêtements qu'il porte, ce qu'il dit sur scène, ses silences aussi, et lorsqu'il tourne le dos au public, tout ça fait le buzz, comme on ne le disait pas à l'époque. S'il n'a pas fait la couverture de Time Magazine, il est le sujet d'articles dans Vanity Fair, dans Ebony, Esquire et même Playboy. En même temps, il est critiqué aussi pour son attitude distante. L'image même que Columbia a choisi de communiquer pour le premier album de Miles est elle-même frappante. Intentionnellement ou non, la photo prise par Marvin Conner au Café Bohemia et choisie pour la couverture de l'album contribue à renforcer cette image de musicien altier. Les lunettes noires, la lumière monochrome rouge et Miles qui semble étreindre sa trompette. Ce qui porte à controverse pour le public blanc va revêtir une signification positive pour la communauté noire. Pour un homme noir de la stature de Miles Davis, adopter une posture intransigeante et sans concession tranchait furieusement dans l'Amérique d'Eisenhower. Sa manière tranquille mais déterminée de défier les canons imposés par une société raciste sont un exemple pour ses condisciples afro-américains. Pour eux, il n'y a pas d'erreur possible sur la valeur symbolique de son dos tourné au public majoritairement blanc. Mais Miles est lui-même un paradoxe.
Bye.
Sweet Sue, Just You, une composition de Walter Joe Harris et de Victor Young. Miles Davis à la trompette, John Coltrane au ténor, Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse, Philly Joe Jones à la batterie. Enregistré à New York le 10 septembre 1956. George Avakian a d'autres projets pour Miles. Il avait été séduit par les enregistrements du Nonette de Buffer the Cool. Et bien sûr, Ravel, Debussy et d'autres impressionnistes français étaient immédiatement venus à l'esprit de cet homme cultivé. Il était aussi un fan de Claude Thornhill et un familier du travail d'arrangeur de Gil Evans. Je cite George Avakian. « Reprenons l'idée, avais-je dit à Miles, et développons-la. Il va falloir bien sûr écrire les arrangements pour un effectif orchestral plus important. » Deux personnes qui avaient participé au Nonette pouvaient mener à bien ce projet, Gunther Schuller et Gil Evans. Miles choisit Gil Evans et le travail commença sans plus tarder. Fin de citation. Depuis longtemps, Columbia manifestait sa volonté de financer la création de projets ambitieux. En 1940, le label avait enregistré Benny Goodman avec Béla Bartók dans une œuvre que Goodman avait lui-même commandée au compositeur, les fameux contrastes pour clarinette, violon et piano. 15 ans plus tard, Avakian engage Miles, toujours sous contrat avec Prestige, comme soliste pour l'enregistrement qu'il produit de deux compositions écrites respectivement par John Lewis et Gigi Johnson, Three Little Feelings et Poem for Brass, des pièces qui seront incluses dans l'album Birth of the Third Stream, disque manifeste de ce troisième courant qui ambitionne de fusionner musique moderne européenne et jazz, et qui comprenait aussi la Symphonie for Brass and Percussion de Gunther Schuller avec le New York Philharmonic dirigé par nul autre que Dimitri Mitropoulos. L'anecdote veut que Miles soit venu assister à l'enregistrement de la pièce de Schuller et, excité par la séance, avait dit à George Avakian « George, demande-lui donc si je peux jouer dans son orchestre un de ses jours. » Et le maestro aurait répondu « Mais oui, pourquoi pas ?» Miles était aux anges, paraît-il.
We'll be right back.
From the Heart, extrait de Three Little Feelings, une composition de John Lewis, interprétée par The Brass Ensemble of the Jazz and Classical Music Society, avec bien sûr comme soliste Miles Davis. A été enregistré à New York le 20 octobre 1956. Nous sommes en 1957. Miles entre en studio pour son deuxième album chez Columbia intitulé Miles Ahead, produit par George Avakian. Et pour l'occasion, Miles va retrouver Gil Evans, cette fois-ci à la tête d'un ensemble de 16 musiciens, des bois et des cuivres, plus une section rythmique, Paul Chambers et Art Taylor. Une dizaine de compositions, toutes choisies par Gil, excepté New Rumba de Ahmad Jamal et The Duke de Dave Brubeck, vont constituer une sorte de suite dans cet album. Elles sont signées John Carisi, Dave Brubeck, Léo Delib, Kurt Weill, Ahmad Jamal, J.J. Johnson et Gil Evans et Miles Davis co-signeront le morceau-titre de l'album. Pour Miles, qui va assurer la partie soliste au bugle, ce sera un travail très exigeant, la musique étant en majeure partie écrite, laissant une place minimum à l'improvisation. Miles Ahead va à son tour rencontrer le succès critique et commercial. Miles Ahead, une composition de Gil Evans et de Miles Davis. C'est une de mes préférées de l'album. Miles Davis est accompagné ici par le Gil Evans Orchestra et ça a été enregistré le 10 mai 1957 à New York, bien sûr.
Kind of Blue, été 59, Thierry Paul Benizot, France Musique.
Depuis quelque temps déjà, Miles s'intéresse à ce qu'on appelle le jazz modal, théorisé en 1953 par le pianiste et compositeur George Russell, avec qui Miles était lié d'amitié, dans un ouvrage « The Lydian Chromatic Concept and Tonal Organization for Improvisation » qui paraîtra en 1959, l'année de Kind of Blue. En fait, Miles a décidé de s'éloigner des contraintes harmoniques imposées par le piano, la suite d'accords s'étageant sur 32 mesures. Moins d'accord, confiera-t-il au journaliste Nathan Toff, plus de possibilités d'improvisation. Vous voyez, George Russell, son écriture est surtout constituée de gamme, et pourtant, vous ressentez les changements d'accord. Fin de citation. Big City Blues, une composition de George Russell, extraite de New York NY. George Russell et son orchestre avec Art Farmer au flugelhorn, Joe Wilder, Joe Ferrant aux trompettes, Phil Woods était au saxophone alto, Benny Golson, Al McCusick et Saul Shinger étaient au saxophone ténor, Bob Brookmeyer, Frank Rehak, Tom Mitchell étaient au trombone, il y avait aussi Bill Evans au piano, Milton Hinton à la basse et Charlie Persip à la batterie. Ça a été enregistré le 24 mars 1959. En 1958, c'est un sextet qui rentre en studio pour ce qui sera le troisième album de Miles pour Columbia, Milestones, avec deux saxophonistes jouant côte à côte, John Coltrane et Cannonball Adderley, et la section rythmique, Red Garland, Paul Chambers et Philly Joe. Miles, s'intéressant de plus en plus au climat créé par l'improvisation modale, va expérimenter. C'est le premier disque, confiera-t-il, où j'ai commencé à écrire dans une forme modale, et notamment dans le titre éponyme Milestones, que nous allons écouter sans plus attendre. Milestone, une composition de Miles Davis avec Julian Cannonball Adderley au saxophone alto, John Coltrane au saxophone ténor, Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et Philly Joe Jones à la batterie, enregistré le 4 février 1958 à New York. Le concept de jazz modal est donc dans l'air. Et justement, c'est George Russell qui va conseiller à Miles Davis d'engager Bill Evans, qui est son élève, en remplacement de Red Garland qui a claqué la porte de la séance Milestone. Miles a déjà ses yeux tournés vers le pianiste qu'il est venu à plusieurs reprises écouter au Village Vanguard. Il dira de lui « Bill possède ce feu tranquille que j'aime au piano ». Lucky to be me, une très belle composition de Leonard Bernstein et de Betty Comden, magnifiquement interprétée par Bill Evans et son trio. Difficile d'imaginer ensemble deux musiciens aussi différents que Bill Evans et Miles Davis. L'un est devenu cet artiste charismatique, sûr de la place qu'il occupe désormais sur la scène musicale. L'autre est plus intellectuel et introverti, jugeant son travail avec une extrême modestie. Bill Evans, dont l'éducation musicale strictement classique diffère de celle de Miles, qui s'est formé en autodidacte, est arrivé au jazz modal par ses études au conservatoire. Il va ouvrir de nouveaux horizons pour Miles en lui faisant découvrir la musique de Ravel et de Bussy, les Russes aussi, Rachmaninoff et Khatchatourian. Tous deux vont discuter des heures sur les structures modales de la musique classique européenne. Miles et Bill vont avoir une influence déterminante sur la musique des années 50 et 60. En conjuguant leur savoir et leur talent, ils formeront ce duo indispensable à la conception de Kind of Blue. Écoutez ça, ça ne vous rappelle rien. Confondant, non, nous écoutions successivement « Hommage à Rameau », une composition de Claude Debussy, interprétée par Robert Cazette en 1954, et puis les premières mesures de « So What » de Miles Davis, de l'album « Kind of Blue », interprété par Bill Evans et Paul Chambers à la basse. Miles a donc trouvé en Bill Evans une sorte d'alter ego dans sa quête d'une nouvelle musique. Et puis après les succès consécutifs de ces trois albums, il vise maintenant à former de façon permanente un sextet. En fait, il s'agit du quintet augmenté d'une autre voix de saxophone. Il a lancé l'invitation à Cannonball Adderley, qui est lui-même leader d'un quintet, et à l'automne 1957, finalement, Cannonball accepte l'invitation. Miles m'a engagé, dit-il, parce qu'il n'aimait aucun des saxophonistes ténors du moment, à part Coltrane. Mais Train était parti et Miles avait de constants problèmes avec Red et Joe, comprendre Red Garland et Philly Joe Jones. Nous sommes donc partis en tournée avec Tommy Flanagan au piano, Paul Chambers et Art Taylor à la batterie. Fin de citation. Les problèmes auxquels le Cannonball fait référence sont bien sûr liés à la drogue et Miles est devenu intransigeant à ce sujet. Il a d'ailleurs violemment viré Coltrane un soir pour les mêmes raisons. Et c'est Thelonious Monk qui prend le saxophoniste sous son aile pour 6 mois, au cours desquels Coltrane « kick the habit », comme on dit en anglais, arrête de se droguer et travaille d'arrache-pied avec le pianiste. Coltrane. Avec Monk, j'ai eu la chance d'approcher un architecte de la musique du plus haut niveau. J'ai tout appris de lui. Miles viendra d'ailleurs leur rendre visite au Five Spot où ils se produisent et constatera la transformation du saxophoniste qu'il souhaite plus que jamais intégrer à son projet. We'll be right back. Nous sommes arrivés fin 1958. Train est clean, il a réintégré le groupe de Miles après son passage chez Monk, et Miles tient enfin son sextet de façon permanente. Un line-up dont la stabilité va durer 7 mois. Miles, Coltrane, Adderley, Bill Evans, Paul Chambers et Jimmy Cobb qui a remplacé Philly Joe Jones. Ils vont entrer en studio au début de 1959 pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire du jazz, Kind of Blue. Merci à David Travailleur qui a réalisé cette émission et à Delphine Baudet qui était à la technique. Merci Delphine. Et puis je vous retrouve dimanche prochain à la même heure sur France Musique et francemusique.fr. Et maintenant, je vais laisser la place aux Bad Boys du Jazz de Florian Royer. Bonsoir Florian.
À réécouter sur francemusique.fr.